Merci d'être avec nous. On est en osmose. On va s'envoler un petit peu. Bah, quoique non, c'est eux qui descendent. On va parler des anges. Alors, c'est Lulu Tinfena qui est avec nous. Bonjour, Lulu.
Bonjour, Serge.
Ça va ?
Ça va.
On vous a vu il y a quelques temps, l'année dernière, je crois. Hein.
Oui, je suis venue, oui. Avec plaisir, d'ailleurs.
Avec d'autres anges. Non, c'est les mêmes.
Toujours les mêmes. Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres qui apparaissent de temps en temps.
De plus en plus nombreux.
Alors, vous étiez aussi à l'autre festival, le festival qui ouvre les livres, pour présenter ce nouveau livre.
Avignon, pour présenter le troisième livre.
Le troisième tome.
Voilà, je vous montre le troisième tome.
On va essayer de le voir sur la vidéo, peut-être, voilà. De toute façon. Il va apparaître, voilà, Les Anges Nomades, le livre des anges, le livre écrit par les anges, numéro 3, Lucienne Tinfena est avec nous. Alors, ce livre 3, c'est une suite ou c'est encore des compilations de messages que vous
Alors,
faites?
Alors, c'est à la fois une suite et à la fois une compilation de messages plus anciens, de 2016 et 2017. Et ces messages-là, ils traitaient de la vie du Christ. Donc, c'est quand même un livre qui est très, je dirais, très chrétien. Tout le début, parce qu'après, c'est plus universel. Alors, ça traite de la vie du Christ vue par les anges.
D'accord.
Donc, en direct.
D'accord, c'est un angle très spécifique.
Très spécifique, oui. Ils sont là, témoins de son calvaire, témoins de sa naissance, témoins de sa mission, quand il était sur les blanches collines de Jérusalem. Alors, il y a des descriptions qui sont très poétiques de Jésus, de sa beauté, une beauté irradiante. Et ils disent, quand il parlait, les oiseaux se taisaient pour l'écouter. Il y a des passages tellement merveilleux, tellement poétiques, qu'on en est saisi, quoi. Et c'est pas du tout ce qui est dans l'évangile. Enfin, je pense pas. En tout cas, c'est un regard nouveau. Voilà. Vu par les anges directement.
D'accord. Voilà. Alors, pour rappeler à nos auditeurs qui ne vous ont pas connus sur la première émission et sur les autres livres, vous êtes une messagère des anges. Ça vous a pris comme ça un jour?
Oui.
Ils vous ont choisi pour communiquer.
Oui, tout à fait.
Vous savez pourquoi ils vous ont choisi, vous? C'est toujours une question que vous vous posez?
Moi, donc, si vous voulez, c'est une chose qui s'est passée très, très, très vite. Et j'avais quand même un tempérament assez mystique, hein, toute petite, je pensais que tout était lié. Et là, un jour, je vous l'avais raconté dans la première émission, je ne vais pas encore
le raconter
hein. Et donc, j'étais chez moi, il y avait des nappes en papier, j'avais un stylo à la main, et d'un seul coup, le stylo s'est mis à écrire.
Voilà.
Je pense que c'est arrivé aussi à d'autres personnes, à d'autres médiums. Mais j'ai couru après ce stylo et j'ai toujours eu un sentiment de confiance, mais vraiment de protection. Je me suis même pas posé la question de quoi que ce soit. C'est bizarre, hein, quand même. Hein. Et puis après, ça a continué. Donc j'ai commencé à avoir des messages très simples qui flottaient comme ça dans les airs. Et puis ça a duré quand même les premières années avec une écriture que je vous ai montrée très difficile, très hermétique, magnifique et hermétique à la fois.
Elle est très jolie, c'est fleuri,
c'est merveilleux. Avec les dessins, toujours à l'intérieur des dessins, qui sont bien sûr des messages. Et ça a duré un certain temps. Alors, j'en avais une compréhension intuitive, puisque c'est difficile à lire, vous l'avez vu vous-même. Hein, bon. Et j'arrivais à traduire, mais je n'ai pas tout traduit, et ça a été une grande erreur de ma part. Parce que sur le moment, j'ai oublié beaucoup de choses. Si je laissais passer du temps pour la traduction, après c'était fini, je n'y arrivais plus.
En fait, vous recevez des messages, mais vous ne savez même pas ce que vous recevez, quoi.
Alors, à présent,
si vous n'arrivez pas à les relire.
Non, mais maintenant, c'est différent. Oui. Parce que, étant donné que le temps presse, que la Terre est montée en vibration, qu'ils me disent tous les jours, ils disent tout s'accélère, la Terre monte en vibration. Donc, ils ont changé leur façon de communiquer. L'écriture est beaucoup plus rapide. Donc, je pose des questions. Et alors, ils me disent, en réalité, les questions que tu poses, elles te sont soufflées.
Ah, même les questions vous sont soufflées.
Parce que moi, je pensais que j'étais un peu le candide, que j'étais, bon, c'est vrai. Mais il y a une partie qui est assez bizarre. Par exemple, je pose des questions sur ma vie quotidienne, sur la famille, etc., etc. Et là, ce sont des passages, bien sûr, que je ne peux pas mettre dans le message. Hein. Bon. Après, les messages sont... Mais véritablement, c'est le message original qui est dans le livre. Hein. Rien n'est touché. Sauf des passages, vraiment, un petit peu trop intimes sur mes amis, sur ma famille, etc. Eh bien, quand ils m'ont dit... On t'insuffle ces questions. J'ai été un peu étonnée, mais après, bon, je me suis habituée comme pour tout. Les réponses venaient très, très rapidement. L'écriture est très rapide maintenant. Hein. Et bien sûr, je sais à peu près de quoi on parle, mais pas au mot près. Pas au mot près. Et lorsque le dialogue est terminé, parce que quelquefois c'est 5-6 pages, 3 fois par semaine, j'ai au moins 20 000 messages. au moins 20 000 messages. C'est quelque chose.
20 000 messages, quoi, oui.
Parce que, par an. Quand même, à raison de 5-6 pages, trois fois par semaine, ça va très vite. Et sur tous les événements qui concernent notre vie d'êtres humains et qui rejoignent l'universel. Ça part du personnel jusqu'à l'universel.
D'accord. Ben,
donc, à ce moment-là, je fais la traduction.
Oui.
Et alors là, bien sûr, je suis totalement émerveillée parce que il y a des choses que je vois, que je comprends. Je fais la recherche du mot juste. C'est quelque chose de tellement extraordinaire que c'est difficile à intégrer. Difficile à intégrer. Et maintenant, donc, je traduis et puis j'attends. Et après, quand je relis le message en entier, alors je vois l'entièreté du message et c'est toujours une surprise merveilleuse.
Alors, voilà, ils vous écrivent, enfin, ils vous utilisent pour écrire, en fait.
Exactement.
Parce que votre main, elle part toute seule, quoi. Le stylo marche tout seul.
Je suis utilisée, voilà. je suis leur outil.
Mais alors, est-ce que vous avez une idée, quand même, du message global? On en est au troisième livre. Ils disent quoi? Ils disent qu'il faut qu'on s'aime, qu'on est en danger? Est-ce qu'ils donnent des avertissements? Alors, comment ça se passe?
Le message global, c'est bien simple, c'est l'amour. Alors, ça peut paraître, bien sûr, un peu gnangnan, hein, toujours dès qu'on parle d'amour, on a l'impression d'être un gourou, ça a l'air idiot, quoi. Hein. Parce qu'on est dans une société qui est tellement...
Enquête d'amour.
Ah oui. Alors, on a toujours peur. La plupart des gens... J'ai remarqué dans certaines émissions que la plupart des gens, des médiums qui sont interviewés, ont peur de prononcer le mot amour, figurez-vous.
Ouais.
Parce que ça suscite des sourires, figurez-vous, dans le public. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Moi, je n'ai pas peur d'en parler. Et pour les anges, donc, tout est basé sur l'amour, sur cette société céleste, qui est une société d'amour, avec des règles d'amour, et une monnaie d'amour, me disent-ils. Hein. Mmh. Et le maître étalon, c'est l'amour, pour nous. Alors, il y a un premier message, c'est « on est toujours avec vous ». Dans tous les actes de votre vie, on vous accompagne, mais partout. Vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Vous ne nous voyez pas, mais nous sommes là avec vous. Nous pleurons avec vous, nous rions avec vous. Nous souffrons avec vous. Nous sommes toujours avec vous, en permanence. Et tout ce qui est relié, tout ce qui vient de la terre est relié au ciel, et tout ce qui vient du ciel est relié à la terre. Et nous sommes là, en permanence. Donc, ils veulent faire savoir par cette écriture... Parce qu'il est la seule marque matérielle de leur existence parmi nous. C'est une écriture bénie. Ce n'est pas moi qui écris, ce sont eux qui écrivent par le moteur qui est ma main. Mais
eux, ils n'ont pas de forme matérielle. Voilà. Donc, ils ont besoin d'une main pour écrire et c'est la vôtre quelque part.
Ils ont voulu livrer au monde l'empreinte matérielle de leur existence parmi nous. Alors donc, il y a déjà cette certitude qu'ils sont là, qu'il faudrait avoir, bien sûr. Ensuite, alors, la vie n'est qu'une illusion. La vie n'est qu'une illusion. Et lorsqu'on passe de l'autre côté, on rentre chez nous. On rentre chez nous, on est dans la maison du Père, ou enfin, ce que vous voulez, mais on est vraiment...
On revient à la source.
On est à la source, et c'est comme quelqu'un qui est parti quelque temps et qui revient, qui se dit, mon Dieu, enfin ma maison, enfin tranquille, enfin chez moi. C'est tout à fait ça.
Alors, il se passe
voilà
des choses,
comment ça se passe.
Il se passe des choses étranges, parce que vous parlez de passer de l'autre côté, c'est-à-dire aller dans l'au-delà, mais vous avez aussi, c'est dans le troisième tome, hein, ce monsieur qui est russe, qui vient de l'au-delà vous parler? La Moldavie.
L'Angémenil?
Non, la Moldavie.
Oh là là, la Moldavie.
C'est quelqu'un qui vient de l'au-delà, vous
alors,
demandez quelque chose.
Là c'est pas un ange. C'est dans mon premier livre.
Hein. Ah, c'est dans le premier choix.
C'est dans le premier, voilà. Alors, la Moldavie, c'est encore une histoire extraordinaire, ça. Parce que au cours d'une communication, j'ai vu arriver un défunt. Parce que il faut bien quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer avec les défunts. Alors, je ne veux pas, bien sûr, porter de jugement sur les médiums, sur les personnes qui veulent communiquer. Bon, vous savez que c'est souvent avec des âmes qui sont très rapprochées de la Terre en vibration, hein, ce qu'on appelle un peu le bas astral, et qui essaient par tous les moyens de communiquer, parce qu'ils sont un peu perdus de l'autre côté. Ils ne savent même pas qu'ils sont morts, qu'ils sont décédés. En réalité, ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants, mais ils sont dans une...
Ils ne savent pas qu'ils sont passés ailleurs, dans une autre...
Oui, il y en a qui ne se rendent pas compte. Ils sont dans une profonde interrogation... Et dans un désarroi total. Alors, il y a quand même les guides, il y a les anges qui sont là, et certains refusent. Ils ne veulent pas les suivre. Parce que de l'autre côté, ça ressemble un peu à nos villes. Il y a des maisons, etc. C'est pas une atmosphère très, très chaleureuse, si vous voulez. C'est un peu grisâtre. Et ça change au fur et à mesure de l'évolution des âmes. Les couleurs peuvent changer. Mmh. Seulement, il y a
tout. En même temps, on n'a plus de corps physique, donc on doit s'apercevoir de quelque chose.
On ne se rend pas compte. Parce que l'apparence, c'est la même. Mmh. L'apparence, c'est la même. Et donc, ce sont des âmes qui discutent, qui se demandent pourquoi elles sont là, hein, pas contentes, certaines, et qui refusent l'aide des anges et des guides. Alors, ils sont obligés de les aider, de leur faire comprendre que, petit à petit, voilà, vous êtes passé dans un autre stade de votre existence spirituelle. Vous êtes maintenant, il va falloir peut-être évoluer. Alors, on les calme. Hein, on essaie de les calmer d'abord, ce qu'ils appellent les âmes récalcitrantes. Mmh. Et puis, petit à petit, certaines refusent. Hein, elles veulent pas, elles préfèrent rester là. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles essaient de se servir des canaux ouverts par les médiums. Résultat, quand les médiums reçoivent quelqu'un qui veut parler à une personne de sa famille, en réalité...
C'est une interférence.
On peut tomber sur n'importe qui. Mmh.
C'est peut-être quelqu'un d'autre qui se fait passer pour un membre de la famille.
Ils ne vont pas se faire passer systématiquement, volontairement. Mmh. Mais ils sont là, ils veulent parler.
Il suffit qu'ils envoient le message à le médium.
Ils veulent signaler leur présence. Ils disent, voilà, on est là, on est vivant, quoi. Ils sont dans cette ambiance bizarre. Et après, au bout d'un certain temps, quelquefois c'est très long, au bout d'un certain temps, les anges arrivent à les persuader qu'il faut les suivre. Et alors là, ils sont tirés vers les étoiles, directement par les anges. C'est arrivé à mon ancien compagnon qui est décédé à l'âge de 44 ans. Et j'ai eu l'autorisation de communiquer avec lui parce que, bon, il est mort de maladie et ça a été extrêmement rapide. Et j'ai eu également l'autorisation d'avoir la date de son départ, ce qui est très rare.
Avant son départ,
pour le ciel.
Je vous avais posé une question.
J'ai demandé aux anges, j'ai dit, mais comment se fait-il que vous...
Non, allez-y. Non, je vous posais une question sur la Moldavie, mais vous êtes parti.
Je vais vous le dire. Parce que moi, j'aurais terminé avec ça.
Oui,
parce que je sais que ça intéresse beaucoup de monde.
Bien sûr.
Oui. Donc, j'ai demandé aux anges, j'ai dit, mais comment se fait-il que vous lui ayez donné l'autorisation de me parler, puisque c'est très difficile. Hein. Il faut toujours la présence de l'ange. Et ils m'ont dit, c'était pour te montrer, justement, ce qui se passait en réalité. Donc, il a été tiré très rapidement au milieu des étoiles, et puis il dit, musique silencieuse. Paumé dans l'azur, c'était quelque chose. Bon, alors on va passer la Moldavie.
Non, mais rapidement, si possible, juste pour parce que là, vous avez eu le droit de parler avec lui. Enfin, il a eu le droit de venir communiquer avec vous, ce monsieur russe décédé qui cherchait quelque chose, en fait.
Il cherchait, mais ils sont toujours entourés d'anges. Ils ne sont jamais seuls.
Donc, quand on s'en va de la Terre, on est entouré d'anges.
Alors, lui a une grande vitesse. Donc, il ne s'est pas trouvé dans le bas astral avec ses âmes qui refusent toute aide, quoi, en fait. Parce que on les comprend, ces âmes. Elles sont à peu près dans le même environnement que nous. Alors, elles voient des gens comme elles, quoi. Elles se disent, mais on va rester là. On n'est pas... Après tout, les anges, je ne sais pas ce que c'est. L'inconnu, la peur de l'inconnu. Voilà ce qui se passe en réalité.
Et donc, lui, il était où ? Il était dans le bas astral. Enfin, il était entre deux, comme ça, depuis plusieurs années.
Oh, mais ça ne va pas durer. Et puis, la notion de temps n'est pas la même que la nôtre. Hein. Là, ils ne vont pas rester longtemps. Après, ils se rendent compte que les anges font un travail extraordinaire pour les persuader de les suivre.
Donc ce monsieur russe
et puis après,
vient vous voir et vous parle de Notre-Dame de Moldavie.
Alors ce russe vient vous voir et il vient le jour de la fête des mères. Ouais. Ça c'est curieux parce qu'on approche la fête des mères. Il me dit, je voudrais que vous mettiez une bougie. Il voulait prévenir sa femme et sa fille. Mais il voulait les prévenir, je ne le dis qu'après, ça d'un danger. Mais ça... Je voulais pas tellement le raconter parce que il dit, je voudrais que ma fille aille mettre une bougie à Notre-Dame de Moldavie. Donc moi j'ai quand même été interpellée, je savais pas du tout ce que c'était.
Qui est cette dame
je
de
ne
Moldavie
connaissais pas. Notre-Dame de Moldavie, la Moldavie c'est un pays qui me fascine depuis des années. C'est un pays qui est truffé de monastères et je voulais aller dans ce pays parce que j'aimais beaucoup les voyages dans les pays de l'Est, la Russie, tout ça. J'ai fait des voyages, c'était magnifique. Mmh. Bon, donc ce russe me dit ça. Et au même moment, il se passe une chose étrange. Je reçois donc un message. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai fait ma petite enquête. Je fais ma petite enquête sur Notre-Dame de Moldavie. Qu'est-ce que j'apprends ? J'apprends que Notre-Dame de Moldavie, ça n'était pas une église. Alors, j'ai pensé que c'était peut-être un monastère, un truc comme ça. Et je fais des recherches et à ce moment-là, on me raconte l'histoire de la jeune fille de Kiev qui s'appelait Agapia. Donc, ça se passe dans les années 1830. C'est une jeune fille dont les parents sont très, très, très chrétiens, enfin, très orthodoxes, hein, très pieux. Et puis, ils voulaient faire un pèlerinage à Kiev. Alors, c'est assez curieux qu'on parle de ça aujourd'hui avec tout ce qui se passe, ce rapprochement de la Russie et de l'Ukraine. Donc, ils feront un pèlerinage à Kiev, mais voyant que la petite était trop jeune et trop fragile, ils partent, ils l'ont laissée chez elle. Voyant cela, cette fillette, je pense qu'elle devait avoir 12-13 ans, part toute seule.
Pour suivre ses parents.
C'est quand même, sans ses parents. Elle veut suivre ses parents. Et arrivé à un moment, elle tombe dans un puits où, paraît-il, selon la légende, elle sera nourrie par des oiseaux qui sont en réalité des anges. Alors, ça, c'est la légende.
C'est comme Blanche-Neige. Un petit peu.
Voilà, bon, c'est une belle histoire.
Oui.
Et un jour, un berger entend un chant, bon, c'est elle, on la sort de ce puits, et elle sera...
Ben un jour, c'est 40 ans après, quand même.
Oui.
Elle reste 40 ans dans le puits,
non,
c'est
non,
ça
non, pas 40 ans après.
Ah non.
Hein. Non, non, non.
Je crois qu'elle restait 40 ans dans le puits.
Non, moins que ça.
Ah,
oui. 40 ans après, elle a fait des miracles. La terre s'est soulevée.
D'accord.
Au-dessus de sa tombe, elle a fait des miracles. Donc, on la transporte dans un de ces monastères, qui s'appelle le monastère de Kotchougeni-Marie. Et c'est dans ce monastère... Qui est la fameuse icône de Notre-Dame de Moldavie, qui retrace la vie de cette Agapia.
Voilà.
Donc ce Russe qui arrivait du fin fond de la Sibérie m'a demandé à sa fille d'aller mettre un cierge à Notre-Dame de Moldavie, et j'ai connu cette Notre-Dame de Moldavie, j'ai su que c'était une icône, non pas une église, et je disais que justement ces deux personnes se sont retrouvées à la lueur d'une douce icône moldave.
Mais concrètement, vous l'avez trouvée, sa femme, pour qu'elle aille mettre le cierge, ou sa fille, pour qu'elle aille mettre le cierge?
Alors, je les ai trouvées, oui, je les ai trouvées.
Ah oui.
Je les ai trouvées.
C'est ça qui est très étonnant, quand même. D'accord. Donc, on est dans le troisième tome, le quatrième est en préparation. Dans ce tome-là, donc, on a quand même quelques avertissements, là.
Ah oui, il y a quelques avertissements, mais il y en a dans les trois livres quand
parce
même.
Parce qu'on court vers notre catastrophe.
Enfin, écoutez, je vais vous dire, dans le premier livre, qui est quand même assez brut de décoffrage. Hein,
d'accord.
Parce que les anges parlent un langage tronqué à la troisième personne. C'était très difficile à comprendre, le premier livre, beaucoup plus que les autres. Hein. Et ils parlaient déjà des trois jours. Et moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais été quand même un petit peu interpellée. Alors, donc, dans celui-ci, on parle aussi des trois jours, on parle de tout ça. Et je voudrais surtout que les gens ne s'effraient pas inutilement.
Alors, c'est quoi ces trois jours?
Alors, ces fameux trois jours, j'ai appris, puisque moi, j'étais tout à fait naïve, je ne savais pas du tout que ça existait, puisque je ne l'ai pas lu. Je me refusais depuis des années à ne pas lire l'Apocalypse, parce que ça me fait peur. Je ne veux pas lire tout ça. Avec mes anges, j'ai l'habitude de bienveillance, de bonté, de compassion, de joie. Et même au début, c'était des plaisanteries, de l'humour. Vous voyez, moi, c'est, j'adore ça. Bon. Et là, j'ai vu que d'autres personnes en avaient parlé. Ils nous disent donc que ces fameux trois jours, c'est une période de purification totale de la Terre, puisque la Terre, bon, on sait qu'elle est en train d'éternuer. Hein. On voit tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Les catastrophes climatiques, sécheresses.
Oui.
Et ils m'annoncent beaucoup d'autres choses.
Puis des guerres, des bruits de guerre, etc. Ça ressemble un petit peu à des messages prédictifs de l'Apocalypse, quoi.
Eh oui. Hein, et même, enfin, en tout cas...
Et ces fameux trois jours, c'est quoi? Il va y avoir trois jours de quoi de...
Alors, trois jours, qui ne seront peut-être pas trois jours... parce que c'est le temps du ciel. Ça peut être 3000 jours, 3000 ans, j'en sais rien. Mais je ne pense pas quand même.
D'accord.
Étant donné qu'on me dit le temps presse, tout s'accélère. Moi, je disais, bon, je vais renvoyer ça au calendrier grec, hein, c'est pas possible. J'avais envie que ce soit ça.
Bah oui, vaut mieux que ça soit plus loin possible.
On n'a pas envie de savoir que c'est trop imminent, disons. Alors voilà, donc ces trois jours d'obscurité pendant lesquels la Terre va, il va y avoir un changement profond de la planète.
Oui, trois jours d'obscurité. D'accord.
Trois jours d'obscurité totale, un changement profond de la planète, et pendant ces trois jours, il ne faut surtout pas sortir. Alors, il faut rester chez soi, fermer ses fenêtres, allumer une bougie, Essayez d'être en famille, si possible. Ne pas, il demande de ne pas être seul, d'aller voir même un voisin, de rester avec quelqu'un, et surtout de ne pas ouvrir.
Mais pas regarder par la fenêtre non plus.
Ah non, parce que ça va être quand même assez impressionnant, parce que ce changement de vibration va entraîner des... Moi, je veux pas. Ça m'ennuie de parler de ça.
Oui, non, mais c'est important d'en parler.
Ça va entraîner des. Il y aura des éclairs, des tonnerres, si vous voulez, des lumières bizarres, et puis des sortes des formes. Des formes, des apparitions, parce que tout va être mélangé en fait dans ce temps.
Et vous n'avez pas lu l'Apocalypse ?
Non, c'est une pause dans le temps. C'est une pause dans le temps.
D'accord. Non, mais parce que ça fait partie quand même du message.
C'est comme ça dans l'Apocalypse.
Bah, comme ça, il y a un moment où on dit, quand ça va arriver, restez chez vous, fermez les volets, ne regardez pas ce qui se passe dehors. Alors, n'ouvrez pas, on va vous taper à la porte, on fera croire que c'est votre mère, votre frère, mais n'ouvrez pas, ce sont des fausses personnes, etc. Ça ressemble à ce que vous dites, là.
Bah, écoutez.
Et si vous ne l'avez pas lu, c'est
très étonnant. Ça m'inquiète d'autant plus, Serge, je vous le dis sincèrement.
Mais bon, ça a été écrit il y a 2000 ans et ça s'est toujours pas passé.
Ça m'inquiète d'autant plus. Sauf que, quand même, moi, mes anges, ce sont des anges d'amour, de pardon, de compassion.
En même temps, s'ils disent ça, c'est pour nous protéger. Voilà, c'est que ceux qui vous écouteront et qui nous entendront...
Il faut prier. Voilà, alors, prier comme vous voulez. Prier dans un... Je ne parle pas seulement des trois jours où il faut sombrer dans la prière, bon, admettons. Mais il faut surtout prier quand on est seul. Dans une église vide, dans n'importe où, mais que vous soyez tout seul, mais face à vous-même, dans un coin de notre chambre, n'importe où.
Parce que là, vous parlez d'église, mais vous n'êtes pas dans les églises.
J'adore les églises vides.
Non, mais parce que vous ne connaissez pas l'évangile, vous ne lisez pas le...
Alors, attendez...
vous n'êtes pas trop dans le circuit.
Non, mais quand même, j'ai été baptisée. Je suis d'une famille non pratiquante, mais chrétienne quand même. Bon,
d'accord.
Alors, il ne faut pas non plus exagérer. Mais j'aime les églises, mais je suis allée... Bon, c'est comme... Je préfère, par exemple, les églises orthodoxes. Je trouve que c'est... Il y a une lumière dans les églises orthodoxes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, les orthodoxes aiment beaucoup les anges. C'est peut-être pour ça que je suis attirée
que vous aimez plus,
par l'église orthodoxe.
Et la nature, qui est un temple, d'après Baudelaire
La
nature.
Ah, la nature, alors là, bon.
C'est pas mal, non ?
La prière dans la nature, c'est le top.
C'est peut-être mieux pour être connecté.
Alors là, pour être vraiment, je veux dire, avec les êtres vivants... En osmose, c'est le cas avec les êtres vivants. Hein. C'est la nature, voilà. Les plantes, les animaux, etc. Alors, pour vous parler de ces trois jours, il va se passer quelque chose de particulier dont les anges me disaient il faut que les êtres humains se forgent une arche de Noé mentale et spirituelle. Et certains médiums, donc je l'ai appris il y a très peu de temps, je vous le disais tout à l'heure, disent qu'il y aura des vaisseaux, que les êtres humains vont être emportés dans plusieurs vaisseaux même, et dispatchés dans la galaxie. Les anges ne me disent absolument pas ça.
D'accord. Ah pas oui, ça tout. C'est d'autres rumeurs.
Je viens de l'apprendre parce que beaucoup de gens me parlent de ces trois jours, donc je me suis peut-être un peu intéressée à la question.
Ils essayent de lier ça à l'enlèvement, comme on parle dans la Bible, justement, où des gens disparaissent.
Alors, mes anges me disent, c'est pas un vaisseau, c'est une forme d'arche de Noé pour échapper à un tsunami géant, mais une forme d'arche de Noé, un vaisseau d'amour.
Spirit, il n'est pas, voilà, pas matériel.
C'est une image, c'est une métaphore en fait, voilà. C'est un vaisseau qui sera un vaisseau d'amour, et toutes les âmes, tous les cœurs purs, tous les braves gens, ils n'ont aucun souci à se faire, Ils seront là, ils iront dans ce vaisseau. Alors tout ça peut se passer dans cette nuit, dans ces trois jours, dans la nuit de ces trois jours. Ils me disent, vous n'aurez pas la mémoire. On vous enlèvera la mémoire. Mais quand vous vous réveillerez, c'est ce qu'on appelle l'éveil aussi chez les bouddhistes, l'éveil de Bouddha. Quand vous vous réveillerez, vous allez vous retrouver sur une planète purifiée, lavée par la main de Dieu. Une planète d'une blancheur immaculée avec des couleurs plus vives, quelque chose d'extraordinaire. Et là, il va falloir impérativement que vous montiez en même temps que cette nouvelle vibration de la Terre.
La nouvelle fréquence terrestre.
Il faut que la fréquence monte en fréquence de façon...
Alors c'est marrant parce que ça revient de partout. Ça vient dans le milieu du bien-être, dans le développement personnel, les gens qui sont un peu chamanes, vous qui recevez des messages des anges, vous n'êtes pas consultés les uns les autres quand même.
Ah non, c'est pas consulté.
Quand je le disais, Madame Drapeau...
Je ne sais pas si les autres se consultent, mais moi je peux vous dire que je... vraiment... Et puis moi, alors ce sont des messages qui sont très anciens. Enfin, il y avait aussi des médiums. Mais j'ai des messages qui datent des années 90 quand même. Hein, c'est pas... Ouais. Les premiers le tome 1, ce sont des messages très, très anciens.
Et puis, il y a quelques années, je vous le disais aussi, Mireille Drapeau qui sort ce livre qui est médium, hein, de communication avec Padre Pio, qui lui dit que la Terre change de fréquence, une nouvelle Terre est en train de se préparer, voilà. Que nous devons nous préparer et que l'amour est la clé de ce changement.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça? C'est l'amour aussi. Hein,
C'est l'amour, c'est sûr. Voilà. Tout est basé là-dessus. On a besoin de faire cet effort, cet effort minime, un tout petit effort de compassion, et puis c'est tout. Voilà. Un simple sourire, le sourire. Le pouvoir du sourire.
Bien, bah écoutez, vous nous l'avez donné aujourd'hui, parce que c'est rayonnant. Bon, ça fait un peu peur, hein, quand même, les trois jours, tout ça. Mais en même temps...
Moi, je pense qu'on doit avoir confiance, parce qu'ils nous disent, non, ne vous inquiétez absolument de rien, ne vous inquiétez pas, vous allez être pris mais en charge, et puis ensuite, on vous enlèvera le souvenir de ça. Mais si vous priez, croyez bien que tous vos proches, toutes les personnes qui seront avec vous, seront protégées.
Après,
n'ayez aucune crainte. On aura peut-être l'impression d'être dans un énorme orage, quelque chose comme ça. Si on reste à la maison et on sera là avec une bougie, on attendra que ça passe, puis c'est tout. Maintenant, ça n'est pas peut-être trois jours, c'est peut-être dans...
Oui, il ne faudrait pas que ces trois jours durent 3000 ans, parce que ça serait compliqué.
Trois jours larges. C'est le temps du ciel.
Après, vous parlez de prières, mais bon, les prières, c'est quoi? C'est une communication avec... avec des esprits, c'est pas une prière récitée, le Notre Père ou des choses comme ça. Les prières, c'est quelque chose de précis.
Ah non, pas du tout.
Non,
c'est la prière qui vient du cœur. C'est la prière qui vient la plus sincère et la plus simple possible. Demandez pardon et demandez qu'on vous épargne.
D'accord.
Voilà. Et demandez à vos anges de rester près de vous. C'est tout. Il y a les prières, on n'a pas besoin de répéter.
Parce qu'on en voit partout, des prières préécrites, très longues, qu'on ne comprend pas forcément.
Je suis incapable de lire une prière écrite, mais je ne sais pas pourquoi.
Alors vous, quand vous priez, c'est avec votre cœur, vous communiquez.
Moi, avec mon cœur, je connais énormément d'autres personnes qui font ça. Elles prient avec leur cœur, dans leur chambre, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est la sincérité. Si vous avez besoin de demander quelque chose, une faveur pour quelqu'un de votre famille, pour vos enfants, pour vos parents, on n'a pas besoin d'aller quelque part. On n'a pas besoin de se courber, de se mettre les bras en croix sur le sol. On parle avec son cœur, c'est ça. C'est uniquement ça, il n'y a rien d'autre. Moi, quand je vais dans une église au moment où il n'y a personne, j'ai l'habitude de mettre un cierge, et puis je suis là, je ressens énormément la présence des anges. Et quand je sors de l'église, je suis, mais alors, vous ne pouvez pas imaginer, lavé, voilà, c'est le cas de le dire, lavé, complètement vide.
Lavé par la lumière.
Voilà, nettoyé, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Alors, ce livre des anges numéro 3, les anges nomades, pourquoi nomades? Ils sont tous nomades, non, les anges? Ah, vous n'avez pas entendu. Pourquoi nomades?
Alors, les nomades, parce que ce sont des anges qui circulent beaucoup. D'ailleurs, je les appelle souvent mes vagabonds.
D'accord.
Ils ont énormément de missions et ce sont des missions qui sont interchangeables. C'est-à-dire, par exemple, il y a un ange qui va être l'ange des prisons, l'ange des travailleurs, l'ange des transports, l'ange... Enfin, ils font tellement de choses. Et le dernier que j'ai rencontré, c'est l'ange des artistes. Il est formidable aussi.
Oui.
Et puis, il y a l'ange de la lune, on en avait parlé la dernière fois, Tomoran. Eh bien, tous ces anges, donc, ils se déplacent beaucoup. Par exemple, l'ange des prisons, il est toujours... il va dans le monde entier pour voir des personnes qui ont été incarcérées ou qui ont été, je veux dire, malheureusement, quelquefois en détention injuste. Hein. Alors, il est là. Et moi, je lui ai dit, mais enfin, je ne comprends pas. Tu vas voir des gens qui sont là, qui quelquefois sont incarcérés alors qu'ils n'ont rien fait. Pourquoi, avec la force que vous avez, avec le pouvoir que vous avez, vous ne faites pas en sorte que ça s'arrête, que ces gens soient libérés, pourquoi? Eh bien, c'est toujours la même réponse. Il doit faire son chemin jusqu'au bout, ou bien c'est une âme qui a choisi de venir, de se sacrifier, de faire une certaine mission pour sauver d'autres
âmes. Pour aider le monde. Parce que c'est une des théories dans votre livre,
oui.
C'est que certains souffrent pour que les autres s'élèvent.
C'est exactement ça, c'est la base. C'est-à-dire que certaines âmes ou certaines âmes viennent sur Terre pour nous aider, pour se sacrifier. Et c'est une des explications, hélas, des enfants maltraités. Parce que moi, je suis très touchée par les enfants. Ça me fait mal. Quand on parle des enfants, ça me fait mal. Et comme beaucoup d'autres, d'ailleurs.
Bien sûr.
Eh bien, chaque fois, je pose des questions. Je dis, mais enfin, les enfants maltraités, les enfants assassinés, les enfants dans les mains de trafic et de pervertis, pourquoi vous ne faites rien ? Ils me disent, alors ils répondent souvent par quelque chose qui est très dur, et je ne veux pas donner cette explication, vous savez pourquoi ? Parce que je pense que les gens ne comprendraient pas.
D'accord.
Donc c'est un peu...
On va parler d'autre chose, juste avant la fin, c'est qu'on parle beaucoup des anges, mais est-ce que les démons existent dans votre univers ? Est-ce qu'ils vous en parlent ?
Alors ils en parlent, ils sont en combat permanent, ah, c'est oui. le perverti, c'est le grand patron.
Vous l'appelez le perverti.
Le perverti, je l'appelle. D'abord, j'aime pas beaucoup parler de... Et les autres, je les appelle les sbires du perverti. Alors il y a des degrés différents, hein. Il y a quelques grands pervertis, il y a le patron, puis tous les autres, et ils sont là, mais ils perdront, ils ont peur, ils sont très peureux, ils vivent dans le mensonge, ils vivent dans tout ce qui est négatif, ils se nourrissent du chagrin, ils se nourrissent des tourments des êtres humains, de la peur, du chagrin, des tourments, et ce qu'il faut surtout, c'est avoir l'espérance, parce que quand on a l'espérance c'est un bouclier, c'est notre épée du Randall. C'est quelque chose de l'espoir de ce ciel, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est si grave que ça, absolument pas, ils vont perdre, on est beaucoup plus fort qu'eux, on est là, les anges sont autour de nous, les justes, les saints et les innocents, justement les enfants qui souffrent, le sacrifice des innocents, et ce sont c'est tous ces êtres et des êtres d'autres planètes que nous ne pouvons pas voir, qui sont là pour nous aider. Donc, on n'a aucune crainte à avoir.
C'est bien ce que vous dites, parce qu'en ce moment, on a vraiment l'impression que l'obscur est en train de prendre beaucoup de place.
Oui, il est à son maximum,
et oui.
Mais il va perdre. Croyez-moi. Mais ne vous faites aucun souci. Ils sont bien plus puissants que l'obscur. Et il y a une chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, c'est qu'ils m'ont dit, en fait, on le prend pour un idiot, le perverti. Parce qu'il fait des choses, il commet des exactions. Mais on se sert un peu de lui pour appliquer la pénitence. Mais c'est à son insu, parce que lui croit que c'est lui qui a fait ça. Mais en réalité, quelquefois, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais ça vient de la décision de Dieu. Autre chose, la vie n'est qu'illusion. Donc, toutes les souffrances qu'on peut avoir, c'est une illusion.
Oui, mais ça fait mal.
Ça fait mal, peut-être. Oui. Ça fait mal, mais il faut penser que cette illusion, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. On a choisi de venir, on a voulu notre liberté, hein. On a choisi entre le bien et entre le mal, on a un chemin. C'est la liberté de l'homme, c'est le chemin de la liberté. Et bien après, ils nous disent, vous savez ce que fait le Seigneur ? Il nous sort de cette illusion de la même manière qu'un thérapeute va sortir une personne de l'hypnose.
D'accord.
Donc on est dans une sorte d'hypnose, et puis on nous sort de là.
D'accord.
Et on aura vécu cette liberté, avec ce combat permanent contre le mal, dans cette illusion de vie.
D'où cette idée, il faut se réveiller.
Oui.
C'est un peu ça.
Et après il y a l'éveil.
D'accord.
Le fameux éveil de Siddhartha.
On va arrêter là. Donc je conseille quand même de lire votre bouquin, on le trouve partout, hein. C'est bon, mais il était à l'autre festival d'Avignon, bien sûr, mais il est dans chez Cultura, il est chez les bons libraires,
oui,
on peut le trouver. J'ai vu qu'il était chez Tessitre aussi.
Toujours pareil.
Voilà. Donc on peut le trouver en ligne, on peut le trouver en physique, et puis il est très joli, c'est encore vos anges qui vont dessiner la couverture.
Ce sont les anges, les trois couvertures, ouais. Effectivement. Et là c'est l'ange Cridello qui a fait celle-là.
Il y a quoi là ? Il y a des papillons.
Alors
des...
Vous savez comment il s'appelle ce dessin ?
Non.
Il s'appelle Rencontre du troisième type. Et, alors ce sont des angelots, mais on dirait des libellules.
Ah oui, voilà, je croyais que c'était des papillons, moi. D'accord. Non,
ce sont des angelots. Hein.
Alors il y a beaucoup d'animaux, hein, dans votre.
Ah oui. Ouais. Et tout est en mouvement, tout est.
Voilà. Et dans votre livre, on découvre aussi qu'il y a un paradis des animaux.
Un paradis des animaux.
Avec votre chatte, non ? Nina, Mina,
oui,
ou
oui,
quelqu'un
oui,
comme
oui,
ça.
Un paradis des animaux, voilà. Tout à fait.
Donc, il y a plein de choses
Alors,
à découvrir.
Pour les personnes qui souffrent de l'absence, ça existe.
Bien. Bah, écoutez.
Ça existe. Ouais.
Je laisse nos auditeurs le plaisir d'aller découvrir votre livre. Les anges, le livre écrit par les anges, numéro 3, les anges nomades.
Les anges nomades.
Lulu Tinfénin, et on le trouve partout. puis il y a qu'à le taper sur...
Il faut le commander.
Voilà, on peut le taper sur Google. Et puis
on le trouve aussi à Montpellier chez Soran, dans quelques librairies, je ne l'ai pas en tête, là, enfin voilà.
Cherchez et vous trouverez. On peut vous trouver aussi sur Internet, hein, c'est Angel's Book. Le livre
Angel's
écrit par
Book,
les anges.
Enfin, Angel's Book Written by Angels, mais c'est trop compliqué. On peut très bien me trouver sur Lulu Tempfener, tout simplement, parce que je publie beaucoup de textes.
Hein. Eh ben oui, vous mettez même
un
au fur et à mesure.
Peut-être je me déciderai à faire un blog. Mais enfin.
On verra.
C'est compliqué.
Merci Lulu. À bientôt.
Merci à vous Serge, à bientôt.
Au revoir.
Merci.